on your body, look good, and you know you have to God bless. Rock wine.
Les grandes expéditions scientifiques. Haroun Taziev, Arnaud Contreras, Anna Smith. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une escale au centre de la Terre dans la série Les grandes expéditions scientifiques. Nous vous emmenons pendant une heure à la rencontre de l'ingénieur, volcanologue et écrivain Haroun Taziev. À nos côtés, Frédéric Lavacherie, le fils d'Haroun Taziev et l'auteur du livre « Un volcan nommé Haroun Taziev ». Et nous recevons également Marcel Boff, ingénieur-chercheur, spécialiste du magnétisme terrestre et compagnon de route d'Haroun Taziev. Départ immédiat au centre de la Terre.
Cette éruption, qui est vécue par la population comme une catastrophe, est pour nous un objet d'étude. Nous sommes là de nouveau, toute notre équipe de volcanologues, remontant chaque jour jusqu'aux abords immédiats du cratère en éruption, pour mieux connaître, mieux comprendre et mieux prévoir. La volcanologie est une science d'observation, de mesure et d'expérimentation. Le contact direct avec le terrain est indispensable. Une nouvelle bouche vient de s'ouvrir qui en quelques heures s'est construite une muraille circulaire de 30 mètres de haut, faite de paquets de lave fondus agglutinés les uns aux autres. Au flanc sud, s'ouvre une brèche par laquelle s'écoulent les laves. C'est par là que nous pouvons observer l'intérieur du cratère. C'est par là aussi que nous allons y pénétrer. Notre objectif est de savoir s'il est possible de demeurer dans cette fournaise assez longtemps pour nos mesures et nos échantillonnages. Mais les averses de bombes et la chaleur rendent le séjour impossible. Nous travaillerons donc à l'extérieur du cratère. Protégé par un home posé sur les épaules, canne de prélèvement en main, le Guerne gravit le cône par le côté au vent. Il va échantillonner les gaz du cratère, non pas ceux que l'on voit s'échapper de la pente, mais ceux qui montent droit de la lave qui bouillonne de l'autre côté de la crête. Le sol vibre violemment. Les bombes, quasi invisibles sur ces images, sifflent et claquent en s'abattant autour de nous. C'est très impressionnant. De petits cônes fort actifs jalonnent la fissure éruptive jusqu'à l'altitude de 3000. Les uns après les autres, nous allons les échantillonner. D'un côté, nous observons continuellement l'activité visible et audible du volcan. De l'autre, nous mesurons les débits de matière et d'énergie. C'est en mettant en relation les variations de tous ces paramètres que nous espérons peu à peu comprendre les mécanismes des éruptions.
Bonjour Frédéric Lavacherie et Marcel Boff, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications, quelques précisions biographiques sur Haroun Taziev ?
Moi j'ai connu ce bonhomme en 1973, quand il est venu, alors qu'il venait juste d'être nommé directeur du service de volcanologie à l'Institut de physique du globe de Paris. Et quand il est arrivé, il a trouvé que finalement les troupes étaient faibles. Il n'y avait pas d'argent. Et partant de là, en fait, Taziev a essayé de trouver des troupes quelque part. Et effectivement, la formation et l'embauche des gens étant impossible compte tenu qu'il n'y avait pas de financement, il est parti vers des organismes qu'il connaissait comme le Commissariat à l'énergie atomique, le CEVA. Et c'est ainsi qu'il est arrivé en 73. Il nous a demandé tout bêtement, est-ce que vous voulez travailler avec nous ? Donc nous, on était un laboratoire de recherche plutôt militaire. Le service était un service de magnétisme, de mesure magnétique du champ terrestre. qu'on a appelé la magnétométrie. Et en fait, on a dit oui, c'était quelque chose qui était super pour les jeunes qui arrivions au travail depuis peu. Et c'est ainsi que finalement, voilà, moi j'ai rencontré ce bonhomme dès 75 sur l'Etna, 76 sur l'Etna, et ensuite nous en reparlerons certainement en 76 et 77 à la Soufrière. Et puis plus longtemps après sur des volcans d'Indonésie.
Frédéric Lavacherie, oui. Si on fait un bond en arrière, pour nous préciser d'où vient, qui est Haroun Taziev, comment s'est-il formé?
Alors Haroun Taziev vient de la Russie. Il vient par sa mère de la Russie blanche de l'Ouest et par son père des fins fonds de la Russie du côté des hauts plateaux d'Asie centrale. Son père était un tatar, un musulman tatar. Il est d'une famille princière de là-bas. Et sa mère aussi issue de famille de haute société, mais russe blanche. Elle était par son père polonais. Son père était un médecin juif polonais et sa mère était une orthodoxe russe dont le père était le gouverneur de la forteresse de Dvinsk en Lituanie pour le compte du tsar. Voilà en quelque sorte les origines de Taziev. Ça signifie que dans son berceau, il y avait les trois religions du livre. La religion juive, la religion orthodoxe chrétienne et la religion musulmane. Plus la philosophie du siècle des Lumières, dont ses deux parents étaient de fervents admirateurs. Voilà d'où vient Taziev sur le plan culturel, sur le plan, disons, on pourrait dire ethnique. Ensuite, sa maman, veuve, puisque le père d'Haroun meurt au premier jour de la guerre de 14 sur le front, sa maman émigre avec son petit, qui a 7 ans, en 1921, ils arrivent en Belgique, et Haroun aura une identité belge, va se forger une identité belge qui sera indélébile. Puis il viendra s'établir en France au début des années 50 et se forgera une identité française qui sera indélébile. De même que son identité russe est toujours restée indélébile. Donc c'est un personnage qui est une mosaïque identitaire, comme la plupart d'entre nous, d'une certaine manière. Sauf que lui, il a porté les trois composantes de cette sorte d'identité culturelle en mosaïque à un degré assez profond au cours de l'ensemble de ses expéditions, de ses explorations du globe.
Il naît dans un environnement scientifique ?
Il naît dans un environnement scientifique et littéraire. Sa maman était docteur en sciences naturelles et chimie. Elle a fait ce doctorat à l'Université libre de Bruxelles au début du 19e siècle. Et son père était médecin. Il a fait ses études de médecine en Belgique aussi, au même moment. Et ces deux étudiants russes se sont rencontrés à Bruxelles quand ils étaient donc tout jeunes encore. Et ensuite, Zenita Taziev, la maman d'Haroun, a très rapidement rencontré, lorsqu'elle est arrivée en Belgique, l'un des plus grands poètes belges contemporains, Robert Vigier. Un homme d'une profondeur humaniste absolument sidérante, enfin, et qui a joué pour la formation du jeune Taziev un rôle tout à fait considérable. Il disait de Bob Vivier, c'est mon plus que père. Et si Haroun Taziev est devenu l'écrivain qu'il a été, la plume qu'il avait, il la doit en bonne partie à son beau-père.
Alors sa formation scientifique débute par des études d'ingénieur ?
Il débute après le lycée par des études d'ingénieur agronome. Il a eu son diplôme d'ingénieur agronome, je crois, en 1938. Et puis, durant la guerre, où il est entré dans la résistance, très tôt, en Belgique, pendant la journée, il faisait des études d'ingénieur géologue à l'université de Liège et d'ingénieur des mines à l'université de Liège. Et la nuit, c'était les activités de résistance. Donc, au sortir de la guerre, il est trois fois ingénieur.
Et il commence l'exploration du monde des volcans à cette époque ?
Il commence l'exploration du monde des volcans de façon fortuite en 1948. Il est alors ingénieur des mines au Congo, employé au Congo pour une grande société minière belge, compagnie minière belge, et il est chargé de dresser la carte géologique du Kivu, donc de l'est du Congo. Et il était chargé de trouver des gisements de minerais d'étain, notamment, et de dresser la carte géologique. Et c'est alors qu'il découvre ce qu'est le volcanisme actif, parce qu'un volcan entre en éruption alors qu'il est là, et c'est le coup de foudre immédiat qui est d'abord un coup de foudre esthétique. C'est d'abord l'artiste qui est subjugué par le phénomène, c'est ensuite l'homme orgueilleux, l'homme de défi qu'il est, qu'il est depuis très jeune en réalité, depuis très très jeune, qui le pousse à grimper sur cette montagne de feu, à franchir le bombardement tellurique, et même, dès sa première expédition improvisée sur un volcan, à descendre de plusieurs mètres dans le cratère en éruption. Et c'est à ce moment-là que se met en route sa cervelle de scientifique, mais dans un troisième temps.
Et nous restons en Afrique avec une évocation de l'Éthiopie par Haroun Tazieff.
Mais il n'y a pas que des touristes en Éthiopie. Haroun Tazieff, l'amoureux des volcans, le spécialiste de la houille rouge, va faire tout autre chose que de la vulcanologie en Éthiopie. Qu'allez-vous faire, Haroun Tazieff ?
L'exploration géologique d'une région tout à fait extraordinaire qui s'appelle l'Afar ou Dankali et qui est une dépression plus ou moins triangulaire qui se trouve à l'est de l'Éthiopie, qui englobe une partie de l'Érythrée, le Wollo et d'autres provinces, qui au point de vue géologique est un endroit absolument unique au monde. C'est le seul en réalité, à la surface découverte par les océans du moins, où se croisent trois énormes systèmes d'effondrement de l'écorce terrestre. Il y a l'effondrement de la mer Rouge, qui est envahie par la mer bien sûr, il y a l'effondrement du golfe d'Aden, qui est évidemment aussi envahi par la mer, et il y a l'effondrement qu'on appelle la grande vallée du Rift, Great Rift Valley of East Africa, qui se croise en un point triple, donc, déprimé, qui est ce grand triangle, qui est d'ailleurs lui-même sous le niveau de la mer, puisqu'il est à 120 mètres sous le niveau de la mer, et qui, à cause de cela, et donc, c'est donc très intéressant du point de vue géologique, pour la structure de notre planète, pour comprendre comment notre planète s'est constituée, comment elle vit, parce qu'elle est vivante, notre planète, les continents bougent, dérivent les uns par rapport aux autres, et là, c'est un point crucial. C'est fondamental, ça n'avait jamais été étudié, et pourquoi ? Tout simplement parce que cette région est terriblement inhospitalière. À 120 mètres sous le niveau de la mer et à la latitude de Djibouti, bien connue pour son délicieux climat aux palmiers de zinc, vous imaginez ce que ça peut être. D'ailleurs, j'y étais allé l'année dernière, au mois de juillet, pour un voyage donc, de préparation à l'expédition que je devais conduire en hiver. Et nous sommes allés avec un petit avion, un petit Cessna, dans cette dépression, dans la plaine de sel. C'est une énorme plaine de sel, extraordinaire. Nous sommes descendus après 6 heures de vol. On a passé 6 heures à survoler à basse altitude toute la région. Je repérais les volcans, c'est truffé de volcans, des coulées de lave, c'est un pays extraordinaire. Et il y a un endroit où il y a une mine de potasse. En milieu de la plaine de sel, il y a une mine de potasse. Et là, il y a un airstrip, un champ d'atterrissage. Et j'ai proposé qu'on atterrisse, que j'aille un petit peu voir cette potasse, etc. Et à mesure que nous descendions, je regardais le tableau de bord parce que je me disais, c'est même très amusant, c'est la première fois de ma vie qu'étant en avion, je vais descendre en dessous du niveau zéro, puisque c'était à 120 mètres sous le niveau de la mer. Effectivement, l'altimètre a marqué zéro, nous continuions à descendre. En avion, c'est assez rigolo. Mais en même temps, je voyais le thermomètre qui donnait la température de l'extérieur, qui montait presque à la même vitesse. Et quand nous avons été à 1 mètre d'altitude à peu près, il marquait 55 degrés. Alors j'ai renoncé à atterrir. Parce qu'à 55 degrés, j'ai l'expérience, malheureusement, on survit, on peut éventuellement marcher, on marche, on souffre, on marche, mais on est totalement incapable de travailler, de faire marcher ces ménages.
Hey, 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 Halila, halalio, halila, halalio, halila. La bahaiti legere baro ya gise hakal me simali afarak yo bukenin fere baro gera afarak yo bukenum gambo ka me sitamali safara gera num asbata darda silali takasa kulli baro halila halalio halila halalio.
Marcel Boff, nous avons l'image d'un Haroun Tazieff aventurier. Nous découvrons dans cette archive quelqu'un de prudent. Comment se préparaient les missions ? Comment se préparaient les terrains avec Haroun Tazieff ?
Elle se préparait en fait indépendamment parce que Tazieff avait toute une série d'équipes qui provenaient des chimistes du CEA Saclay, par exemple, des géophysiciens du CEA Grenoble, des chimistes du CEA Grenoble. Et donc, toutes ces personnes-là était censé faire, d'une part, mettre en place le matériel, mais il y avait de toute façon des réunions préparatoires, et dans ces réunions, il y avait surtout, je dirais, quelques personnes qui étaient un peu les bras droits de Taziev, qui étaient François Leguerne, qui était Rosemarie Chevrier, qui était Jean-Christophe Sabrou et d'autres, et qui, eux, avaient déjà donc une histoire dans le domaine de la volcanologie et qui disaient exactement ce qu'il fallait emporter, comment le faire, et qui parfois même fournissaient le matériel. Je me souviens de la première hivernale à l'Etna en 1975, c'était en avril, il y avait encore 7 mètres de neige. Cette année-là, il y a même le toit de l'observatoire qui est parti, emporté par un vent de plus de 200 km à l'heure. Et nous avions notre matériel au sommet du volcan, sur le côté sud-ouest, à Punta Lucia. Et en fait, bon, on n'a jamais eu de problème. Il y avait les gros duvets pour des grosses expéditions. Il y avait, bien entendu, l'hôtel qui était l'igloo, dans lequel il fait zéro, mais pas moins. Et donc, tout était préparé, je pense, essentiellement par des gens qui étaient extrêmement compétents. Je veux nommer à nouveau un certain François Leguerne.
Donc, on est loin de l'image du Haroun Taziev aventurier.
Alors, cette image Haroun Taziev aventurier est complètement fausse. À mon avis, c'est les gens qui le traitaient de baroudeur et qui disaient qu'il n'était absolument pas compétent scientifiquement, alors qu'il avait quand même 3 diplômes d'ingénieur et que ceux qui parlaient de son incompétence n'en avaient aucun. Donc, non, c'est tout à fait faux. Et moi, les expéditions qu'on a pu faire, que ce soit en Europe ou en Asie, démontrent complètement le contraire.
Comment est-ce qu'on choisit un lieu de mission scientifique, un volcan ?
Alors, ça, c'est pas moi, c'est pas nous. J'allais dire, c'est un peu Taziev. Taziev nous a emmenés sur l'Etna pour une raison toute simple. C'est que nous étions, en 1973, parfaitement incompétents. Le matériel était un matériel qui fonctionnait sur le secteur. Donc il était impossible de tirer le secteur au sommet du volcan, donc il fallait modifier l'appareillage. L'appareillage a été modifié en 2 ans, et en 1975, on est arrivé sur un volcan, mais on ne savait pas quelles allaient être les mesures, comment les faire, etc. Donc on a procédé par tâtonnement avec toute l'équipe d'ingénieurs du CEA, à la tête duquel il y avait à l'époque un ami qui s'appelle Francis Robach, et entre 1975 et 1976, le matériel a été au point et on est arrivé donc après, en 1976, à la Soufrière, en Guadeloupe. Mais comment choisit-on un volcan ? Ben, disons que Taziev, l'Etna, c'est son champ, son précaré, il y va, il y allait régulièrement. Après, il y a eu ce volcan français qui a commencé à bouger. Donc, il est évident qu'il fallait qu'il y aille. Mais, à mon avis, à l'époque, ça devait être, son 20e, 30e, 50e volcan. Je ne sais pas.
Haroun Taziev témoigne. Il diffuse ses découvertes et ses expéditions via des films, des conférences, des livres. Nous écoutons tout de suite un extrait d'une lecture par Louis Raymond.
Nous vous prions d'écouter une page de L'Homme et le Feu de la Terre de Haroun Taziev. Dans cette page, l'éminent explorateur raconte sa descente dans un volcan en éruption. Louis Raymond va nous donner lecture de ce texte.
Descendre au cœur même du volcan. Je m'étonne un instant de ma propre folie. Prudemment, j'ai fait un pas, un autre. Encore un, ça va, ça va. Je me mets à descendre, enfonçant le talon aussi profondément que possible dans les scories brûlantes. Peu à peu, en dessous de moi se rapproche, grandit l'ovale de l'énorme gueule et s'accroît l'effrayant tumulte. Mes yeux grands ouverts se saoulent de tant de monstrueuses splendeurs. Les lourdes draperies sont là, d'or fondu et de cuivre, si proches, que j'ai l'impression d'avoir, moi, humain, pénétrer dans leur monde fabuleux. L'air est torride, c'est la pleine fournaise. D'effort, pourtant, je m'y arrache. Tâchons de redevenir scientifique. Vite les températures. Celle du sol, celle de l'air. J'enfonce dans les scories meubles la longue tige thermométrique dont l'acier brille parmi ses sinistres moires brunâtres et grises. À un demi-pied de profondeur, 220 degrés. Dire que je n'ai jamais rêvé que d'exploration polaire.
Tadiev fait partie d'un cercle d'explorateurs comme Paul-Émile Victor, Cousteau. À quelle communauté est-ce qu'il appartient ?
Aucune.
Frédéric Lavacherie ?
Aucune. Aucune. Il a effectivement fréquenté la Société des explorateurs. Ça ne s'est pas toujours passé de la façon la plus amène. Il a beaucoup travaillé avec Paul-Émile Victor. Ça ne s'est pas nécessairement passé de la façon toujours la plus amène. Je voudrais profiter de ce remarquable passage qui a été lu là parce que c'est une constante chez lui, je le disais tout à l'heure. Ce qui le pousse, c'est le défi que propose l'univers à la connaissance. Et ce défi que propose l'univers à la connaissance, l'univers le pose à tous les artistes. La première cause de l'art, je pense, elle est là. C'est aussi la première cause de la science. Et à l'origine, art, science, cosmogonie, croyance... récit, là on a entendu un récit, mythologie, tout cela n'est qu'une même production, création indifférenciée de l'homme depuis que l'homme est homme, depuis les origines. Les différenciations, les séparations vont se faire peu à peu avec un rythme accéléré à partir du moment où nous entrerons dans une véritable ère religieuse instituée et puis dans une véritable ère scientifique où la science s'autonomise aussi par l'institution et où on arrive aujourd'hui où tout est complètement cloisonné. Mais à chaque instant, à chaque moment et à travers tous les âges, il y a des gens pour qui rien n'est cloisonné. Tazieff était un de ceux-là. Alors, en ce qui concerne le baroudeur, je voudrais compléter ce qu'a dit Marcel tout à l'heure. Il a dit, Tazieff au début, il disait « mieux connaître, mieux comprendre pour mieux prévoir ». Et ce côté baroudeur, par lequel on le caricature, en réalité, c'est l'expression même du défi que pose le risque de disparaître pour toute espèce vivante, qu'elle soit végétale ou animale. Et l'homme construit sa stratégie de survivance et de développement dans cet univers par un outil très curieux qu'on appelle la culture. Et pour affronter un risque, mais c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour l'animal, pour connaître un risque, il faut l'affronter. C'est ce qu'il fait avec la volcanologie. Et c'est ce que font tous les alpinistes lorsqu'ils se risquent sur des plaques à vent. Ils relèvent un défi qui est insensé. Et en même temps, s'ils n'avaient pas fait ça, on ne connaîtrait pas bien le risque des plaques à vent. On ne connaîtrait pas bien le mécanisme de déclenchement des avalanches. Ce qu'il fait en descendant dans son premier volcan, comme on l'entend dans le récit, mais il l'a fait plusieurs fois, en descendant dans ce cratère, en plantant bien le talon dans la cendre chaude, il s'affronte à un risque. En même temps, on voit que son cerveau de scientifique se met en route, donc c'est pour mieux le connaître, pour mieux prévoir. Et je rejoins ce que disait Marcel tout à l'heure, toute cette action, mais c'est vrai pour là aussi, si ça ne sert pas, d'une façon ou d'une autre, pas d'une façon immédiatement mercantile ou industrielle ou commerciale, mais si ça ne sert pas l'humanité, ça ne sert à rien.
Et pourquoi est-ce qu'il décide de le médiatiser, d'écrire, de publier, de faire des films, de présenter la science, oui, ses découvertes au grand public ?
La première raison, ce qui déclenche cette carrière de très grand conférencier, de très grand vulgarisateur, c'est le besoin de faire connaître le spectacle auquel il a assisté pour la première fois en 1948. Par chance, quelqu'un qui avait une caméra la lui prête, donc il filme tout ça. Rentré en Belgique en 1949, il faut qu'il le montre. Parce qu'il faut qu'il le donne au monde. Comme tout artiste, un artiste qui ne peut pas rendre au monde plus que ce qu'il n'en a reçu, il meurt. Taziev, il est comme ça aussi. Et assiste à la première conférence qu'il fait en Belgique, un gars qui s'appelle Paul-Émile Victor. Et Paul-Émile Victor, pour Taziev, c'est un dieu parce que le rêve de Taziev, ça a toujours été d'être explorateur polaire. Et le voilà explorateur du feu. Et donc, évidemment, la présence de Paul-Émile Victor le comble. Et Paul-Émile Victor lui dit, mon garçon, si tu veux pouvoir continuer à faire ce genre de recherche, d'exploration, d'expérience, fais ce que tu fais. Tu filmes, tu donnes des conférences en permanence. Tu vas comme ça récolter l'argent qui te sera nécessaire pour monter tes expéditions. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ce n'est pas le seul aspect.
Retour au centre de la Terre, écoutons le témoignage d'Arun Taziev et le son d'un cratère.
Nous avons là l'envoyé du diable, sinon le diable lui-même. Un diable fort sympathique d'ailleurs parce qu'il a une ressemblance certaine avec l'ex-roi Léopold de Belgique. Il s'agit d'Arun Taziev, vous l'aviez deviné. Arun Taziev, vous avez entrepris une série de conférences. Et ce soir en particulier, on pourra en entendre une, Salpiel. Voudriez-vous nous dire sur quoi?
C'est une série de conférences sur notre dernière expédition au lac de lave permanent, au lac de lave en fusion permanente du Nyiragongo au Congo belge.
Oui, ce lac a quelque chose de particulier, c'est vous qui l'avez découvert.
Oui, ce n'est pas ça qu'il a de particulier. Ce qu'il a de particulier, c'est que c'est le seul existant au monde.
Alors, comment avez-vous entrepris votre expédition?
Eh bien, la découverte en avait été faite en 1948, lors d'une première descente dans le cratère, jusqu'à 200 mètres de profondeur. Alors là, traversant une première terrasse, nous avons aperçu le lac encore 200 mètres plus bas.
Oui.
Il a fallu attendre 1958, et notamment l'appui du roi Léopold dont vous parliez, pour... que la Belgique mette sur pied une expédition scientifique importante qui a eu lieu en 1958 et qui a permis d'atteindre la deuxième plateforme 180 mètres plus bas encore.
Alors c'est donc tout ce que vous allez raconter ce soir avec l'appui des films bien entendu et des illustrations sonores. Mais cette illustration sonore, moi j'aimerais bien me promener à l'oreille du cratère, disons, écoutons-le ce cratère.
Combien? 910. 10. Et à l'extérieur, donc à la gueule.
Oui.
Et 985.
985 dedans, mais c'est pas mal. Hein. Bon, mais je pense que la pluie...
Bon, alors écoutez, vous pourriez nous donner des précisions. Évidemment, c'est un cratère en éruption que nous venons d'entendre. Oui. Un volcan en éruption. Quelle température fait-il?
La température des gaz que nous étions en train de prélever près de ce gueulard, oui, que vous venez d'entendre était, selon les endroits où nous les avons mesurés, entre 980 et 1010 degrés.
Oui, mais alors vous ne pouvez pas approcher tout de même.
Bah, nous étions à un mètre, mais sur le côté, et nous protégeons, d'ailleurs protéger...
Ça implique tout de même... Un vêtement spécial.
Oui, justement, avec des vêtements spéciaux et puis des précautions, et puis on en bavait un petit peu. Quoi.
Je suppose que vous avez une technique qui est double, en ce sens qu'elle est à la fois celle de l'alpiniste et celle du spéléologue, non?
Oui, il y a de l'alpiniste, du spéléologue et du volcanologue.
C'était Midi Actualité.
Marcel Boeuf, il y a une discipline dont on ne parle pas dans cet extrait, c'est la connaissance dans le domaine atomique. Et quels étaient les rapports entre Arun Taziev et le monde de l'atome?
Ben, pour ce qui me concerne, ils étaient tout à fait excellents. Mais en fait, Taziev, à plusieurs reprises, s'est érigé contre ces centrales nucléaires. Je dirais même que, à un moment donné, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, il lui a demandé d'être secrétaire d'État ou ministre de l'Environnement, quelque chose comme ça. Taziev a d'ailleurs refusé. Mais je pense qu'une des raisons qui était probablement sous-jacente à cette demande, c'était que, une fois qu'il était au gouvernement, il allait devoir se taire concernant ses attaques éternelles contre le nucléaire. Après, plus tard, il est devenu effectivement secrétaire d'État. Il a effectivement arrêté toute critique vis-à-vis du nucléaire. Il a visité Mururoa, il a visité un certain nombre de choses, il a écouté des ingénieurs atomistes. Est-ce qu'il avait vraiment changé d'avis ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, j'ai travaillé au CEA, mais je n'ai jamais fait de nucléaire de ma vie. Donc, je sais simplement que les relations avec la très haute hiérarchie parisienne étaient bonnes, étaient tout à fait bonnes, et que le travail que les scientifiques du CEA ont fait n'a jamais posé problème. C'était très très bien, quoi.
Dans voilà. Les années 50, 60, 70, le monde de l'atome est l'endroit où on trouve les meilleurs chercheurs ?
Ben, je crois que oui. Je crois que oui, moi je me retire de tout ça, parce que je viens de l'extérieur. Mais quand je regarde ce que ces gens-là ont pu faire, au niveau de l'énergie nucléaire, au niveau de tous ces sous-marins d'attaque, au niveau de... mais aussi tout ce système de prévention et d'étude des séismes avec l'organisme qui se situe à Bruyères-le-Châtel. Donc oui, moi je pense que c'était très probablement, dire que c'était le meilleur, je ne m'aventurerai pas, mais oui, je pense que c'était un des meilleurs, c'est sûr.
Et c'est pour ça que Haroun Taziev va travailler avec eux, avec ces personnes, va les chercher pour les intégrer dans certaines de ses équipes.
À mon avis, oui, tout simplement parce que c'était nous on était au fin fond d'une ville qui s'appelle Grenoble, on était quand même un peu perdus par rapport à la région parisienne. Il est arrivé là en nous disant mais j'ai besoin de vous en domaine de la volcanologie. Nous, on a commencé à se dire, mais pourquoi la mesure précise, très précise du champ magnétique terrestre peut-elle être intéressante ? Et ça, il nous l'a dit. Donc, si vous voulez, il avait déjà une culture scientifique extrêmement importante, et comme il n'avait pas de troupe, tout patron de la volcanologie à l'Institut de physique du globe qu'il était, eh bien, il est allé ensuite au CEA Saclay pour des chimistes. Il est venu aussi au CEA à Grenoble pour d'autres chimistes. Et ces gens-là ont travaillé pendant longtemps en ressortant des données, mais qui n'avaient jamais été vues auparavant, et en allant même très très loin, parce que tout à l'heure on parle de la FAR. C'est quand même Haroun Taziev qui, avec des gens comme Jacques Varret et d'autres, et des Italiens d'ailleurs, a, je dirais, défendu bec et ongle dans les années 60 l'histoire qui aujourd'hui est un élément évident, qui est la tectonique de plaques.
Sur le rapport d'Haroun Taziev avec le nucléaire, en réalité, cette question du nucléaire est à la source même tant de son travail scientifique, dans les sources de son travail scientifique, et dans les sources de son engagement de citoyen, d'homme, tout simplement, dans la vie de son époque, dans les enjeux, qui sont des enjeux planétaires, de son époque. Son époque, elle est marquée par le développement extraordinaire de la science au début du 20e, fin 19e, début du 20e, et là, la question nucléaire est déjà tout à fait présente, hein, avec les travaux des premiers savants atomistes, et on les trouve tant en France qu'en Belgique. Il est belge, il naît en 14 dans l'Empire russe, mais il est rapidement belge, et la Belgique embraye immédiatement dans la recherche nucléaire et dans ses applications pratiques, notamment en médecine. Et ça, le jeune Taziev en est au courant parce que le milieu social et culturel dans lequel il baigne travaille ces questions-là. C'est vrai de son milieu côté Taziev, c'est vrai de son milieu côté, je vais dire, les familles Dumont et Limbosch, qui sont ma famille, la famille de ma mère. Et donc, il est immédiatement plongé dans ce bain-là. Donc, il sait de quoi il retourne, et ces jeunes gens observent ça tout au long de l'évolution des années 30, où parallèlement se développe la science de la physique nucléaire et se développe, monte la lutte contre le fascisme et le nazisme. Et bien souvent, les deux engagements scientifiques et politiques sont le fait des mêmes personnes, des mêmes milieux. Et lorsque Taziev, au sortir de la guerre, où il a joué un rôle dans la résistance qui n'est pas un rôle négligeable, et où la question nucléaire, la question des minerais d'uranium, est une question en réalité qui est au cœur de la géostratégie mondiale et qui donnera naissance à la guerre froide dès 1945, eh bien, le jeune Taziev est envoyé au Congo, le Congo est le siège des seules ressources mondiales alors connues de minerais d'uranium qui permettent de concevoir une stratégie militaire et une stratégie civile avec l'atome. Donc il est immédiatement au cœur de tous les enjeux, et la question du nucléaire est là. Et lorsque, en 1951, il explore avec une petite équipe de spéléo le gouffre de la pierre Saint-Martin, en 51-52, il le fait avec des physiciens nucléaires, les plus grands qui soient. Et voilà, donc l'histoire de Taziev est indissociable de l'histoire du nucléaire.
Un événement marque particulièrement la carrière de Haroun Taziev et de ses équipes, le réveil du volcan de la Soufrière en Guadeloupe.
Pour l'instant, eh bien, parlons de ce qui se passe du côté de la Soufrière. Hier soir, explosion au sommet du volcan, explosion sans gravité pour les hommes, puisque, vous le savez, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour évacuer toute la région. Ce matin encore, le préfet Jean-Claude Rousseau a visité les lieux après cette explosion et on est toujours là-bas dans l'attente de cette fameuse explosion prévue pour quand? Eh bien, on ne sait pas exactement. Alors, tout de suite, des détails sur ce qui se passe à la Soufrière et nous allons, je suppose, avoir quelques images maintenant de ce volcan dont on attend l'éruption imminente.
Le volcan a tremblé sans interruption pendant une heure et demie hier soir. Et puis vers 21h30, heure de la Guadeloupe, 2h du matin pour nous, il y a eu une explosion très violente. Cette déflagration a été suivie d'une secousse ressentie jusqu'à Pointe-à-Pitre, située pourtant à 40 km de la Soufrière. On pense que c'est une partie du bouchon de magma qui a sauté, mais aucune observation directe n'a encore pu être effectuée. Et les techniciens de l'Institut de physique du globe, 7 hommes qui se trouvaient encore dans un blocos sur les pentes même du volcan, ont dû être évacués précipitamment. On ne sait donc pas encore si le pire est passé, ou si au contraire, l'explosion d'hier soir n'était que le signe avant-coureur de l'éruption finale. Une éruption qui pourrait alors être accompagnée de ce que l'on appelle la nuée ardente, un nuage de cendres et de poussière brûlante qui consommerait tout sur son passage. Il y a quelques instants, notre envoyé spécial à la Guadeloupe, Alain Rodier, m'indiquait que des hélicoptères allaient tenter d'effectuer cet après-midi une reconnaissance aérienne pour inspecter le cratère et aussi pour se rendre compte des dégâts dans les communes évacuées. Les villages, en effet, sont en principe tous vides. 70 000 personnes ont été évacuées durant 4 jours, mais on sait que certains, surtout des vieux, vivent toujours à quelques kilomètres du cratère. Ils ont refusé de partir. Dans cette correspondance que nous n'avons pu diffuser, malheureusement pour des raisons techniques, Alain Rodier notait également l'extraordinaire sang-froid de cette population de la Guadeloupe qui maintenant ne peut qu'attendre sans savoir exactement ce qui va se passer. Sur le plan organisation, en effet, on a fait le maximum, mais on ne peut pas prévoir la Soufrière peut encore cracher comme magma et comme cendre brûlante dans les jours qui viennent. Plus de 1000 sauveteurs attendent hors des limites de la zone dangereuse, prêts à intervenir en cas de besoin.
Frédéric Lavacherie, pouvez-vous nous décrire en quoi cet événement est important?
Alors, c'est d'une certaine manière un non-événement volcanique et un événement considérable en matière de politique scientifique, de recherche scientifique en sciences de la Terre. Voilà. Alors pourquoi c'est d'une certaine manière un non-événement volcanique? Parce que la crise volcanique de la Soufrière de la Guadeloupe qui se manifeste au début de l'année 76, elle appelle des spécialistes sur le volcan parce que la population est un peu effrayée, il y a des tremblements de terre, le volcan crache, il ne crache pas du rouge, il crache manifestement du gris, mais est-ce que c'est dangereux? Enfin, ça fout un peu la trouille quand même. Et donc Taziev, comme d'autres géologues, sont appelés à la Soufrière et lui remarque que ce qui sort n'est pas du magma frais. Ce qui sort, c'est de l'eau sous très forte pression, qui expulse du matériel complètement froid. Et les gars qui sont avec lui, qui sont pas de son équipe, mais des géologues spécialistes des volcans éteints du Massif central, partagent cet avis. Là, on est au début 76, et puis bon, tout le monde rentre chez soi à Paris, et puis voilà que au début de l'été 76, ce qui sort est encore plus effrayant et ça secoue encore plus fortement. Donc il est de nouveau appelé sur place, il fait le même diagnostic. À partir de là, je résume très fort. D'autres équipes, notamment de l'IPGP, de l'Institut de physique du Globe de Paris, dont
évoqué par Marcel tout à l'heure, font un diagnostic inverse et disent non, il y a du ce qu'ils appellent du verre frais, c'est-à-dire de la roche fondue, du magma qui sort. Et Taziev dit non, c'est impossible pour plusieurs raisons que je ne détaille pas là, mais ça se voit à l'œil nu. Et là-dessus, la tension monte, je résume de nouveau très très fort, mais la tension monte entre les deux équipes scientifiques, en quelque sorte. Une équipe amenée là par Taziev ou sur les recommandations de Taziev et qui est formée pour une bonne partie de chercheurs, d'ingénieurs-chercheurs du CEA, d'autres organismes aussi d'ailleurs, et puis l'équipe de l'Institut de physique du globe de Paris, dont Arun Taziev est quand même le directeur de la volcanologie, mais qui va rapidement avoir comme directeur au cours de l'été, comme supérieur hiérarchique au cours de l'été 76, un nommé Claude Allègre. Alors là, tout va s'emballer, s'enflammer. Mais au total, ce qui était en jeu, c'était la survie de 70 000 paysans pauvres, vivant depuis toujours de quelques arpents de terre, de quelques poules, de quelques chèvres et trois bananiers. Et Taziev disait, Taziev comme d'ailleurs Marcel qui est là, et les tous les équipiers de Taziev, disaient, ces gens-là sont évacués pour des semaines, ils seront ruinés à jamais. Donc avant de prendre la décision politique de les évacuer, il faut vraiment savoir ce que l'on observe sur ce volcan.
Marcel Boeuf, est-ce que des instruments sont nés, des instruments scientifiques, des instruments de mesure sont nés de cette expérience de la Soufrière ?
Il y en a certainement parce que, comment vous dire, ça a été une expérience qu'il a fallu faire vite et bien. Et donc, dans ces conditions-là, le scientifique, il a toujours... Il y a toujours une espèce d'étincelle qui sort. Nous, je parle de ce que je connais, moi, beaucoup plus en physique qu'en chimie. Donc, en physique, on s'est rendu compte de phénomènes très, très, très particuliers. C'est-à-dire que faire une mesure, bon, n'importe qui peut faire une mesure à la précision du millionième. Sauf que si vous ne savez pas l'interpréter et qu'il y a dans la mesure beaucoup plus d'erreurs que la mesure elle-même, eh bien, c'est pas la peine. Donc, on a, oui, appris comment faire ces mesures, comment mettre les capteurs sur le terrain, parce que finalement, le terrain n'est pas homogène et qu'il peut y avoir toute une série de phénomènes qui viennent apporter un bruit énorme dans la mesure. Donc oui, moi je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y avait quand même déjà beaucoup, beaucoup d'outils, que ce soit en sismologie, que ce soit... Alors, la sismologie, ben, on va l'évoluer. Au lieu que ce soit des bandes passantes courtes, on va mettre des bandes passantes larges, enfin, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des évolutions. C'est vrai aussi en inclinométrie. C'est cette chose qui permet de voir quand une montagne gonfle ou dégonfle en fonction de la pression intérieure, etc. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu, au niveau français, je ne parle pas des Américains, énormément d'outils qui étaient là en 76.
Et on sent que le réel importe plus que la fiction dans le parcours d'Arun Taziev. On le sent dans chacun de ses témoignages, et en particulier dans cet entretien où Jules Verne est évoqué.
La couture dit de vous que vous êtes une sorte de Jules Verne du réel. Oui.
Je sais pas, parce que Jules Verne, qu'est-ce qui caractérise Jules Verne ? C'est que il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la science-fiction à partir des connaissances de son époque. Or, moi, je suis essentiellement un anti-science-fiction. Je suis tout à fait contre la science-fiction. Elle ne m'intéresse pas plus que le roman policier. J'aime pas la fiction. Je l'aime plus. Il y a peut-être 20 ans ou 25 ans que je n'ai plus lu un roman. Parce que je trouve la vie tellement passionnante. Jules Verne faisait de la science-fiction. Sauf quand il faisait de la description de voyage. D'ailleurs, les bouquins que j'aime de loin, les meilleurs pour moi, les bouquins de Jules Verne, je l'ai beaucoup lu quand j'étais gosse, hein, ce sont des voyages non pas de science-fiction. C'est pas de la Terre à la Lune, c'est pas Voyage au centre de la Terre, qui est le plus mauvais de ces bouquins, d'ailleurs, il est très mauvais. C'est pas la science-fiction, ce sont les bouquins géographiques. Kéraban le Têtu, que personne ne connaît. Ce sont ces bouquins-là, la Jean Gada, le... comprenez ? Pour moi, le grand Jules Verne, c'est ça.
L'héritage scientifique importait pour Haroun Tazieff. Quel est son héritage scientifique, mais aussi littéraire, Frédéric Lavacherie?
Son héritage scientifique, il est sur la science pure de la volcanologie, il est fondamental. C'est lui qui a permis de comprendre que l'ensemble des échanges de matière et d'énergie entre l'intérieur du globe et l'univers s'opère par une interface extrêmement fragile, d'une certaine manière, et très fine relativement au diamètre de la Terre, qu'on appelle l'environnement, et qui est une sorte de film tricouche, solide la croûte terrestre, liquide l'eau océanique et gazeux l'atmosphère, et que cette interface est en création permanente et en recyclage permanent par le double moteur de la tectonique des plaques et du volcanisme. Ça, on le lui doit. Et on lui doit aussi, mais c'est lié, la compréhension que les gaz sont le moteur de la phénoménologie des éruptions, du phénomène éruptif aérien qu'est le volcanisme aérien. Pour le volcanisme sous-marin profond, c'est un petit peu différent. Alors ça, c'est l'apport scientifique. Son apport, est comme apport scientifique, est fondamentalement un apport culturel. Il a abordé la question de la prévention des risques comme personne ne l'a fait. Et cette méthodologie qu'il a eue, cette philosophie qu'il a eue de la prévention des risques, qui est un art en réalité, au sens propre du terme, comme l'art d'enseigner, comme l'art d'ausculter, mais aussi comme l'art de faire savoir, eh bien, cette méthodologie de la prévention des risques, il va falloir la réveiller parce que la façon dont Tazieff l'a pratiquée est oubliée.
Merci Frédéric Lavacherie et Marcel Boff pour ces voyages au centre de la Terre et aux côtés d'Haroun Tazieff. La série Les Grandes Expéditions Scientifiques se réécoute et est disponible en podcast sur franceculture.fr. Cette série vous est proposée en partenariat avec Science et Vie. Une émission produite par Arnaud Contreras, réalisée par Anna Smuk. Prise de son Stéphane Desmonts, mixage Bernard Laniel.
Ancestral.